Circoncision et excision. La circoncision, ritan, n'est pas mentionnée dans le Coran, mais elle est universellement pratiquée sur les garçons musulmans, bien que seule l'école juridique chafiite l'exige. La circoncision masculine consiste à couper la peau du prépuce. La circoncision masculine est fondée sur la croyance, partagée avec les Juifs, qu'Abraham, l'ancêtre commun des Juifs et des musulmans, a circoncis ses fils. Genèse 17. La circoncision était également pratiquée dans d'autres cultures, comme dans l'Égypte antique. En arabe, ce rite s'appelle aussi bien « ritan », valable pour les deux sexes, que « purification », « tahara », indiquant ainsi une de ses fonctions. Les intellectuels musulmans peuvent également associer la circoncision à la maîtrise, mais non l'élimination, des passions de la chair, « naf ». L'âge de la circoncision pour les garçons peut aller selon les pays de la naissance à l'âge de 15 ans. Dans certains pays, elle est pratiquée à l'heure de la naissance ou bien dans l'enfance et s'inscrit dans un contexte plus large de rites initiatiques qui accompagnent la naissance et l'enfance. L'âge le plus courant pour pratiquer la circoncision est probablement aux alentours de 6 ou 7 ans, quand le garçon est sur le point de commencer à assumer ses responsabilités religieuses en participant à la salat, prière islamique. Dans certains pays, comme à Java, région de l'Indonésie, ou au Yémen, la circoncision est un rite d'accession à la maturité, puberté, quand l'enfant a entre 10 et 12 ans. Dans ce cas, la circoncision peut être liée au fait que le garçon est capable de réciter le Coran tout entier, comme il l'a appris à l'école coranique. Dans d'autres pays, la circoncision se fait un peu plus tard et sert de prélude au mariage et à la pleine participation en tant qu'adulte à la vie de la communauté. Il s'agit parfois d'une grande fête qui exige des vêtements particuliers, de la nourriture en abondance et des processions. Parfois, la fête de la circoncision peut concerner plusieurs garçons en même temps. De nos jours, les familles musulmanes préfèrent faire de la circoncision une affaire privée et une fête de famille. La circoncision est recommandée, mais n'est pas exigée pour les hommes qui se convertissent à l'islam. Pour les filles, l'excision n'a jamais été marquée par des célébrations importantes, alors qu'elle est censée être l'équivalent de la circoncision masculine. En fait, il s'agit d'une exérèse qui consiste à enlever tout ou une partie des lèvres et du clitoris, mais que les préposés pratiquent en catimini. Si la circoncision est l'occasion de réjouissances familiales, parfois onéreuses, l'excision est une pratique honteuse que les familles cherchent à masquer. Cela rejoint les constatations faites par les chercheurs et tout le corps médical. En effet, toutes les études cliniques montrent que cette ablation des lèvres et du clitoris, mais aussi l'infibulation, c'est-à-dire le fait de suturer l'orifice vaginal jusqu'au mariage, porte préjudice à la santé physique de la jeune fille et compromet durablement son équilibre psychologique et son épanouissement. Il n'est pas rare que l'excision soit sanctionnée par la mort de la patiente ou par des complications sérieuses lors de la pénétration et au moment de l'accouchement. Alors qu'elle est combattue par l'islam, l'excision est couramment pratiquée en Haute-Égypte, au Soudan, en Somalie, en Éthiopie, en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est et dans toute l'Arabie où elle s'est imposée depuis longtemps. Selon toutes les données historiques dont nous disposons, la pratique de l'excision, tout comme la pratique de la circoncision, est antérieure à l'arrivée de l'islam et ne peut être imputable à son influence. Aujourd'hui, l'excision gagne l'Égypte du Delta, Alexandrie comprise, et se répand même dans les villes chrétiennes. Anciennement, elle était cantonnée en Arabie, au Yémen, dans la Corne de l'Afrique et dans une large frange de population allant du détroit de Bab el-Mandeb jusqu'au détroit d'Ormuz. Dans tous les rapports émanant d'organismes internationaux comme l'UNICEF, l'excision gagne du terrain. Elle affecte désormais les couches sociales moyennes, qui étaient pourtant préservées jusqu'alors. Et le chiffre généralement avancé est effrayant. Elles sont plus de 2 millions par an, entre 4 et 10 ans, à être victimes de cette mutilation d'un autre âge. En outre, l'excision est mollement combattue par les populations qui la pratiquent. Les matrones en vivent, et parfois, telles de mauvais médecins, elles la pratiquent sans même recourir à l'asepsie du matériel, tout rudimentaire qu'il est. Il est par ailleurs évident que l'anesthésie n'est pratiquée par aucune rebouteuse. Toutes ces raisons justifient amplement les campagnes nationales et internationales menées par les instances médicales contre toute forme de mutilation génitale. Le processus vient seulement d'être engagé. Il nécessite d'être poursuivi et encouragé. Car aucun abandon de cette pratique, que les populations autochtones tiennent pour essentielle à l'identité de la femme, ne sera possible sans qu'il y ait une vaste prise de conscience parmi les élites des pays exciseurs, et surtout parmi les milieux féminins. Paradoxalement, ce sont les mères qui tiennent absolument à faire passer leurs propres filles sous le bistouri. La raison avancée est que celles-ci doivent se tenir comme il faut lorsqu'elles arrivent sous le toit de leur époux. Elles ne doivent pas montrer un appétit trop fort pour la chose sexuelle, ne pas gémir de plaisir à chaque copulation et demeurer sous la coupe de leur mari. Enfin, l'idée fausse selon laquelle une femme excisée s'occuperait mieux de son foyer et élèverait plus consciencieusement ses enfants doit faire partie des clichés à combattre, ce qui est déjà le cas avec les nombreuses Africaines excisées qui écrivent des livres, donnent des interviews à la presse française et acceptent, chose encourageante, de témoigner à visage découvert. Pour aller plus loin, sur la foi d'une tradition selon laquelle Mohammed a recommandé de ne pas exciser trop profondément, certaines autorités musulmanes se prononcent contre l'excision des femmes en faisant remarquer que le prophète ne l'a pas expressément recommandé. D'autres, au contraire, considèrent qu'une forme d'excision minimaliste est recommandée mais non obligatoire. D'autres encore disent qu'elle est obligatoire et d'autres qu'elle doit être supprimée purement et simplement, car c'est une mutilation du corps qui va à l'encontre de la loi de Dieu. Dans un même pays, on peut très bien avoir un groupe qui est pour l'excision des femmes et un autre qui est contre. Une campagne mondiale est menée actuellement pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Elle vise tout particulièrement les pays de la zone subsaharienne.